bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale avec Leïla Kaddour-Boudedi, Jérémy Crédville, Daniel Morin, Tom Villa. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Et notre invité est le chef Jean-François Piège. Bienvenue Jean-François, vous allez bien et ça se voit.
Merci.
Si vous me passez l'expression. Non mais c'est... Bah, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a toujours l'impression que les chefs, les grands chefs, étaient toujours...
Bon, c'est pas qu'une impression.
Bien portants.
Ouais.
Voilà, un peu...
C'était rassurant quand même.
Un peu rond.
Oui.
On se dit qu'ils goûtent leur cuisine, ah bah ouais. Ainsi de suite.
Qui termine.
Et c'est...
C'est vrai que c'est... Non mais c'est plus rassurant que les coiffeurs. Bon, je vais y aller.
Et que là, bon, vous êtes, je sais pas, pris en main ou vous avez pris conscience de quelque chose. Bref, vous avez perdu du poids. Je me permets d'en parler parce que vous en avez parlé extrêmement clairement. Et parallèlement à ça arrive un livre de recettes qui s'appelle Zéro Gras, avec 50 recettes qui sont tout aussi gourmandes que si elles avaient du beurre et de l'huile.
Oui, parce qu'en fait quand j'ai fait mon régime, et je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est pas un livre de régime parce que moi j'ai pas la notion de ça. Il faut,
si on veut faire un régime, c'est ça,
faut aller voir un docteur,
un nutritionniste.
Voilà. Je suis allé voir un nutritionniste. Dans ses préconisations, c'était de manger sans gras, accompagné du reste. Hein. Et franchement, quand je suis sorti du rendez-vous, je me suis dit, mais quand il m'a donné la liste de ce que je pouvais manger, j'ai dit, ça va pas le faire.
C'était quoi
la liste ? Une pomme, c'est tout.
C'était quoi la liste, en gros ? Enfin,
il y avait des choix de protéines, il y avait des choix de légumes, et il y avait marqué...
Pas de gras.
Pas de gras. Mais c'est dans le régime, ça allait plus loin. Hein. Je peux faire une confidence. J'avais pas le droit au savon. J'avais pas le droit de toucher le gras.
Au savon.
Mais c'est vrai, faut pas manger de savon, Jean-François.
Ah, mais c'est ça. C'est ça. Je me disais, il y a un truc qui marche pas.
C'est quoi le rapport avec le savon ?
Même le gras sur la peau.
Les savons liquides, il y a quoi dedans ?
Non, mais ça rentre pas dans le.
Mais si, dans les pores.
Mais non.
Mais bien sûr, sous l'eau chaude, les pores s'ouvrent et.
Et ça mais d'accord, mais ça rentre pas au point de le digérer ou de faire les poignées d'amour.
Moi, j'ai un principe, c'est que quand
j'ai arrêté de me laver le ventre pour les poignées d'amour, c'est ça que tu veux dire.
Ça, ouais.
Bon, depuis, je me lave plus, hein, c'est ça.
Et d'ailleurs, oui, pardon, si pas de savon, ça veut dire qu'on lave comment alors ?
On commence tous par se laver le torse.
Un produit sans savon qui s'appelle lactacide, par exemple, sans matière grasse, s'appelle lactacide.
D'accord. Donc il y a des produits faits pour
absolument.
D'accord, je savais pas.
Voilà. Et donc
des savons non gras.
Voilà, des savons non gras.
Tu vas répéter tout le long, elle va être très longue cette émission.
Elle va pas être très longue cette émission.
Moi j'ai un service, donc ça va pas le faire.
On a tous nos petits problèmes.
Donc il vous a dit zéro gras sans rien préciser, il vous rajoute donc même pas utiliser un savon, on va dire, traditionnel.
Ouais, ça va plus loin, mais je m'arrête là.
D'accord.
Non, allez-y, ça peut être pas au-delà du savon, parce que déjà ça allait loin.
Et je me dis, pour moi la nourriture c'est égal plaisir. Donc si je veux suivre ce régime, il faut que le plaisir soit là. Et donc je me suis mis à cuisiner à l'eau.
Oui.
Et en donnant de la couleur à l'eau, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des asperges dans de l'eau, eh bien, j'ai trouvé d'autres cuissons, je les ai cuites dans le riz. Des navets, j'arrive à les caraméliser à l'eau. Donc, quand j'ai vu que je prenais autant de plaisir sans matière grasse, je me suis mis à photographier mes plats comme ça. Comme mes clients chez moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Parce que je fais comme ça quand j'ai une idée, je photographie, je me note sur un petit cahier.
Parce qu'il faut que ça soit bon et beau aussi.
Voilà.
C'est ça, il faut que ça soit bon et beau.
Et il faut que ça donne envie, en fait.
Et que le goût, alors. Parce que une purée, par exemple, il n'y a pas de recette de purée dans les 50 recettes. Non. Une purée sans beurre, c'est impossible, on est d'accord?
C'est une pomme de terre écrasée, peut-être aux herbes, mais ça ne sera pas une purée. À part la mayonnaise sans gras, parce que je trouvais ça rigolo, c'est pas des pastiches que j'ai fait. C'est une appropriation de la cuisine sans gras.
Elle revient beaucoup, la mayonnaise sans gras.
Et oui, parce que c'est dingue. Ouais. En fait, c'est une petite histoire rapide. Quand je dis ça à l'éditrice, elle me dit « Ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, moi je l'ai cuisiné ce livre. J'ai pris un principe depuis 3 ouvrages, je n'écris plus les livres, je les cuisine. » C'est-à-dire qu'au lieu de mettre devant l'ordinateur et d'écrire le livre et faire des erreurs, je me mets dans une cuisine, je fais la recette, on la fait en photo, on la mange, et c'est quelqu'un qui prend des notes. Comme ça, on est au plus proche de la vérité. Chaque fois que j'ai fait des livres où je les ai écrits moi derrière un ordinateur, c'est pas mon métier. Je le fais pas très bien. Et il y a plein d'erreurs. Et là, ça va éviter toutes ces erreurs. Et quand je lui dis la mayonnaise, elle me dit, bouge pas, bouge pas. J'ai une idée. Je l'avais testée avant. Je l'ai faite. Et franchement,
Ouais. Alors racontez, racontez.
En fait, je suis parti du principe. Moi, je pense que la cuisine, c'est.
Alors, je peux donner. Oui, ça vous dérange pas. La recette. Alors déjà, temps de préparation, 5 minutes.
Ça c'est bien.
De dire. Ouais,
Mais c'est plutôt pour accompagner, hein. Tu manges pas que de la mayo.
T'es sûr? D'accord. Il y a 4 feuilles de gélatine. Alors là, faut m'expliquer ce que sont les feuilles de gélatine.
Agar ou gélatine. En fait, on extrait du végétal ou de l'animal. Alors, probablement plus aujourd'hui du végétal que de l'animal. Ça, c'était avant.
Avant, il paraît que c'était carrément des carcasses de.
Ouais, oui, oui.
Maintenant, de chien ou de porc, quoi. C'est ça.
D'accord. Le chien a plus de goût.
Bon, maintenant, c'est végétal. On peut avoir le même effet végétal.
Pareil.
D'accord. Donc, 4 feuilles de gélatine. Quelle est l'importance de la gélatine dans la recette?
En fait, c'est toute la base. On va rendre un corps liquide huileux. Je me suis dit, la partie grasse dans la mayonnaise, c'est l'huile. Donc, je vais changer la consistance de l'huile par un liquide et je vais le rendre huileux. Donc, pour rendre un liquide huileux, là, c'est le cuisinier qui parle, je prends un bouillon de légumes, je mets de la gélatine et je la fais très, très, très dure. C'est presque du béton. C'est dur comme ça et je la mixe. Et en la mixant, on casse toutes les petites particules et ça devient huileux. Et j'avais une huile végétale. Génial. Sauf qu'on peut l'utiliser qu'à froid, hein, je précise. Alors, ça sert à rien de la mettre dans une poêle.
Il y a la feuille de gélatine, bouillon de légumes, vous venez de dire, de la moutarde, un jaune d'œuf.
Du vinaigre et du sel.
Et du vinaigre et du sel, ou peut-être du citron si.
Si on veut, si on change l'acidité, en fait, la recette traditionnelle de la mayonnaise. Et franchement.
Et ça sert de base aussi pour d'autres sauces.
Ouais. Après, il y a plus rapide, hein, parce que hier, je m'amuse encore. Hier, j'ai fait une autre sauce. Ça marche aussi en remplaçant l'huile. Par le fromage 0%. Ça donne une texture qui est un peu différente et il y a le côté aigre du fromage qui change un peu plus le goût.
Donc c'est carrément pas le même goût, on est d'accord?
C'est pas le même goût, mais c'est intéressant. Franchement, d'accord. C'est intéressant.
Et alors les modes de cuisson, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important quand on se dit.
Vapeur.
Pardon?
Quoi?
T'as dit vapeur?
Je disais vapeur.
Oui, alors c'est ce que je voulais entendre. Le premier réflexe en disant pas de matière grasse, pas d'huile, pas de beurre, hop, je vais faire vapeur. Vous avez trouvé d'autres solutions
parce que vapeur, moi je trouve pas ça très bon.
Oh, ça dépend pourquoi, franchement.
Quand on est en Asie, qu'on a un poisson vivant qui cuit à la vapeur, c'est dingue. Un légume cuit à la vapeur, moi je trouve que ça change son goût. Et moi, quand je mange une asperge, j'ai pas envie qu'elle ait le goût du foin. Une asperge cuite à la vapeur, pour moi, ça n'a pas le goût de l'asperge.
Un brocoli vapeur, ça va, ça reste un super bon brocoli. On peut rajouter dessus justement soit un fromage blanc, soit la sauce.
Puis on en parle plus. Voilà.
J'ai pas traité du brocoli dans ce livre-là. Moi, si j'avais du brocoli à faire, je le couperais en petites sommités, je mettrais un tout petit peu de sel, je laisserai 5 minutes le temps que l'exsudation du sel fasse sortir la cellulose et le reste. Je le mettrai dans une poêle avec une goutte d'eau. Je mettrai un couvercle dessus, je le mettrai à feu moyen. Et j'attendrai que ça caramélise à peine parce que y a rien qui va se faire. Je remettrai une goutte d'eau, je le referai sauter comme ça et je le mangerai. Je pense que c'est 10 fois meilleur qu'à vapeur.
Moi, je serais comme vous, moi. Je serais exactement pareil.
Alors, quels sont les procédés que vous avez trouvés? Parce que il y a la cuisson sur un pavé, il y a la cuisson sur des marrons, il y a le riz qui vient remplacer le sel.
Le riz. Je vais même, ça va plus loin, c'est que cette cuisson, elle est même à la carte du gastro aujourd'hui.
De votre restaurant gastronomique, le grand restaurant.
Parce que j'ai pas trouvé meilleure cuisson d'asperges. Franchement, ça fait 34 ans que je travaille. J'ai mangé des tonnes d'asperges. La plus belle cuisson que j'ai mangée de ma vie, c'est la cuisson dans le riz. Et quand on va présenter en salle et les clients nous demandent « ça apporte quoi le riz ?» Rien. Et c'est justement ça qu'on veut. Parce qu'on mange pas une asperge qui est cuite dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier pour savoir quand on met des asperges dans l'eau. Il y a l'eau qui rentre dans l'asperge et l'asperge qui va dans l'eau. Vous voyez bien.
La déperdition ou l'absorption de trop d'eau, quoi.
Exactement.
Alors qu'avec le riz, c'est l'inverse.
Il y a rien qui change.
Si le riz absorbe l'eau de.
Même pas, ça protège. D'accord. Parce que, en fait, mécaniquement, la chaleur, elle rentre comme ça.
Mais attendez, expliquez-moi pour bien comprendre. Le riz, il est cuit.
On cuit du riz à l'eau.
D'accord, donc lui il est cuit.
Il est cuit.
Comme pour être mangé, quoi. On le laisse 10 minutes dans l'eau bouillante.
C'est inratable.
D'accord. Nagui.
Un plat à gratin. On met des asperges au fond. On les superpose pas, on tapisse le fond. On met du riz qui est cuit dessus. Chaud. Le four à 220 degrés, 14 minutes. Il n'y a même pas besoin de vérifier. On sort, on les mange tout de suite. Elles sont croquantes. On les mange 5 minutes après. Elles sont un tout petit peu plus fondantes parce que la cuisson aura fini de coin sur le côté. C'est inratable. Le riz, on le laisse refroidir. Le soir, on veut le manger, on prend une poêle, comme il a déjà un petit peu grillé. Moi, le grillé, je le mets dessus, parce que j'aime bien. On le fait sauter et on mange avec ce
qu'on... Et pourquoi ça n'a pas collé la cuisson au fond du plat? L'asperge n'a pas collé?
Parce que je suis cuisinier, mec.
Vous dites c'est inratable.
C'est inratable.
Non, c'est inratable. Si n'importe qui met des asperges dans un...
Non, parce que le temps de cuisson...
Dans un plat, et vous le mettez au four, ça va...
14 minutes.
Combien de degrés?
220.
Ah, t'as envie d'essayer, toi, je sens.
Ah oui, bien sûr. Alors, il y a aujourd'hui un producteur d'asperges qui est extrêmement renommé, qui s'appelle Sylvain Erard, qui est le domaine de Rock Haute. C'est les asperges que je fais, c'est la Rolls des asperges. Et son dada, c'est essayer ça. Quand j'ai sorti cette cuisson, parce que c'est une cuisson qui est un petit peu... Il y a 2-3 mauvais coucheurs qui ont dit « Ouais, le riz, machin, truc... »
Ils ont des voix bizarres,
en plus. Ouais, ouais. En général, les mauvais coucheurs, ils sont pas très sympas. Ils n'ont pas des voix sympas. C'est pour ça que c'est des mauvais coucheurs. Et Sylvain a dit « Vous me... » Il a pris les asperges, il a fait du riz, il a fait ce que j'ai fait. Il m'a dit « Mais c'est le plus beau truc. »
Petite question, le riz, vous le mangez ou il a servi juste à la cuisson et il faut le jeter?
Alors, c'est ce que je disais. Le riz, ce qui est croustillant, on le met dessus. Comme ça, ça donne une petite texture. Le soir, le riz qui a fini de cuire, on le met dans une poêle, on le fait sauter avec des légumes ou autres et c'est sublime bonbon.
C'est voilà. Du riz qu'on a déjà fait cuire au préalable.
C'est ça.
Mais vous faites, vous, au cuirie, c'est ça? C'est le...
Au cuiseur à riz, oui.
Ouais.
Moi, je préfère comme les Asiatiques parce que je trouve que c'est eux qui font la plus belle cuisson. Ça coûte rien si on va chez Darty ou chez Amazon. Si vous voulez faire du riz à la maison, petit conseil, ça coûte 30 ou 40 euros un cuiseur à riz. C'est meilleur que dans une casserole.
Vraiment?
Ah ouais.
C'est quoi la différence entre une casserole?
Parce que c'est la magie de la cuisine. Suivant comment vient la chaleur, on a des résultats différents.
D'accord.
La cuisine asiatique, elle est dingue.
Sans vous êtes d'accord?
Oui, clairement. Ouais.
Comme la nôtre, elle est dingue. Et il faut pas essayer d'approprier par... pour nous, des choses où ils sont meilleurs que nous.
Ouais. Et pourquoi zéro gras? Pourquoi pas moins de gras? Pourquoi pas se dire, je m'autorise tant de cuillères à soupe par jour d'huile d'olive ou une demi de mayonnaise et puis le lendemain, je fais gaffe. Qu'est-ce qui a déterminé ce zéro gras, ce côté complètement...
Des défis.
Parce que moi, c'est pas un livre de régime.
Oui.
Ce que vous dites, c'est un livre de régime. Mmh. Et pour ça, il faut aller voir un professionnel. Moi, j'ai découvert une façon de cuisiner qui était sans gras. Et c'est un livre... qui est pas là pour dire comment vous allez maigrir. Ce que j'ai compris aussi avec ce professionnel, c'est que quand on fait un excès, il faut savoir se reposer. Parce qu'en fait, le danger, c'est d'empiler les excès, ce qui était mon cas en fait. Parce que quand on est dans un restaurant pour suivre ce que disait Nagui, tous les jours, on goûte.
Bah oui.
Et comme chez nous, normalement, si on fait bien notre métier, c'est pas mauvais, on a cette faculté à empiler. Et j'ai vraiment compris quelque chose, c'est qu'il fallait savoir se reposer. Et se reposer, c'est pas que se reposer à rien faire, c'est reposer en moins mangeant. Et parfois en mangeant des choses plus naturelles. Moi, l'exemple, il y a une chose...
Et qui valorise peut-être le goût aussi, ces modes de cuisson.
J'allais y venir parce que la sauce César, on fait des menus au personnel, au grand restaurant. Ce que je veux que le personnel
mange.
C'est gentil, merci.
C'est gentil de votre part aussi.
Et j'allais dire que les premiers clients, il faut que ce soit nous. Donc il faut que ce soit bon. Il y a même la recette de la salade César.
Oui.
Et c'est eux qui l'a... C'est la recette de la salade César, c'était une de mes recettes.
De la sauce César.
De la sauce César.
D'accord,
et
ouais.
De la salade.
Ouais.
La seule différence, c'est que là, il n'y a pas de parmesan, parce que évidemment, il y a du gras dans le parmesan. Mais celle-là, aujourd'hui... Ils font plus la recette traditionnelle. De même, moi j'ai rien dit. Ils font celle-là.
L'autre est meilleure.
Ouais, parce qu'elle est plus vive en fait. Et que, effectivement, quotidiennement, il ne faut pas se priver du gras. Mais moi, ce n'est pas un livre de régime. C'est pour ça que je le dis de cette façon-là. C'est un livre où si on veut prendre des pauses, si on a envie d'aborder une cuisine différente... Eh bien, il faut regarder.
Et il y a des professionnels, des nutritionnistes qui ont regardé un peu votre livre, vos recettes ou pas?
Eh ben, on va en parler justement tout à l'heure.
Voilà.
Avec Arnaud Cole. T'es un professionnel.
Professionnel. Allez, passe.
Est-ce que tu as compris pourquoi Jean-François était notre invité?
Déjà, je voudrais le remercier. Merci Jean-François qui a eu la délicatesse de ne pas nous ramener à manger. Non, mais c'est très bien. Au moins, vous allez au bout du livre qui s'appelle donc Zéro Gras. Bah oui, quand on ramène rien, il n'y a pas de gras. C'est évident. C'est vrai que ça doit être chiant quand t'es cuisinier, comme vous, chef étoilé, de se sentir obligé de ramener à manger aux gens. Regardez Nagui quand il est invité chez des amis. amis ne ramènent pas toujours un karaoké, c'est voilà, c'est pareil. Alors que Morin lui ramène toujours sa mauvaise humeur, ça c'est très rare. Et donc vous, Jean-François, dans votre livre, les recettes, elles sont cohérentes, elles sont light et gourmandes. Puis les noms sont simples, c'est très bien. Omelette au céleri, thon cru au chou-fleur, voilà, on sait ce qu'on mange. Parce qu'il y a certaines émissions, je dirais pas lesquelles, mais c'est facile, c'est sur M6 où les mecs ils sont jugés par des pros, ils donnent des noms et compliqués à leur plat. Alors suprême de poulet rôti en apparence avec des écorces de panure d'antan, bah tu sais, t'emmerdes pas, 10 nuggets, ça ira plus vite. Non mais t'imagines si on fait ça pour tout. Chérie, ce soir je propose une plongée au cœur de l'ordre républicain incarné par ses serviteurs les plus zélés. Ouais, dit que rien d'enquête d'action sur W9 en buvant une bière, ça ira plus vite. Non mais ça, le groupe M6, c'est le groupe de la bouffe. Top Chef sur M6, un dîner presque parfait sur W9. On se fait noter par un meilleur ouvrier de France sur M6 et puis humilié par un plombier qu'on connaît pas dans sa propre salle de bain sur W9. Alors l'entrée était un peu bâclée et en plus je constate qu'il y a du tartre sur les robinets. Mais c'est très bien votre livre Zéro Gras, Jean-François. Vous souhaitez juste que les gens mangent mieux et ça c'est très bien, ouais. C'est hyper important. Et la preuve, j'en parlais hier soir au McDo avec Daniel. Et l'alimentation saine et équilibrée, c'est important. Un Big Mac, une petite salade, c'est très important. Toujours ajouter des fraises sur ton McFlurry, M&M snappé caramel. En plus, j'ai bien regardé votre livre et je dois vous avouer que, par contre, je suis quand même sceptique dans certains cas. Voilà, il y a des recettes qui sont pas dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a des choses en France, c'est soit light, soit gourmand. Il n'y a pas d'entre-deux. Par exemple, tu peux pas faire une raclette light et gourmande. Ou alors, on vire le fromage et ça s'appelle jambon puré et on est à la cantine. Tu vois, de la fondue savoyarde, si on vire le pain et le fromage, il reste plus rien. Ça, on fait des mi-cadeaux avec les piques et, mais ça marche que dans un sens. Parce que c'est vrai, quand tu fais un plat light comme une salade de tomates, ça deviendrait pas l'idée de rajouter un demi-minster pour équilibrer de l'autre côté. Tu vois, la bascule, elle se fait pas. Pour moi, light et gourmand, c'est comme les gens qui vont à la plage, mais qui se baignent pas. À ce moment, tu restes à Paris, tu vas à Paris plage, tu vas bronzer entre deux bobos et trois clodos et tu nous emmerdes pas. Après, c'est une question de volonté de bien manger. Mal manger aussi, c'est une question de volonté. Vous me direz, bah, la tropézienne après la tartiflette, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ah, non, et puis, vous avez vu toutes les nouvelles applis pour se faire livrer à manger, c'est terrible. Non seulement on mange de la merde, mais maintenant on se déplace même plus. Oh, du cholestérol à domicile. Donc, n'oubliez pas, manger sain, très important, 5 fruits et légumes par jour. Pour gagner du temps, faites comme mon père, un verre de sangria, un verre de punch, et c'est réglé.
Merci Tom Bill, c'est la recette que de Tom Bill.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Zéro gras, Jean-François Piège signe ses 50 recettes, plus de 50 recettes même, légères gourmandes, parce que, comme l'a dit à l'instant Tom, il faut pas se priver du plaisir, même s'il n'y a plus de gras, d'huile, de beurre, de crème. C'est l'exercice auquel, quand vous dites en 5 minutes on y arrive, c'est vous y arrivez en 5 minutes. Est-ce que Tom, nous tous autour de la table,
donc,
ouais, c'est ça.
J'étais chez une cuisinière la semaine dernière. Quand je la voyais cuisiner, je pense qu'elle va plus vite que moi. Donc peut-être qu'il y a même des gens qui vont plus vite que 5 minutes.
Non, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le faire. Là, on se dit, cuire les asperges, ça ira plus vite. Ceci étant, la vapeur, ça prend du temps de faire de la vapeur, alors que le four en question, c'est 20 minutes. Mais sauf qu'il faut faire le riz avant.
Voilà. Après, j'allais dire, c'est une question de volonté, comme tout. Il n'y a rien de facile dans
et d'organisation, j'ai l'impression qu'il faut être très organisé dans une cuisine.
Alors, ça, c'est la cuisine, ouais, c'est la base de la cuisine, c'est d'être organisé. Ouais. D'avoir préparé les courses, d'avoir pensé à allumer le four dès qu'on rentre pour ne pas l'attendre au moment où il faut cuire. C'est des petits. Mais quand on cuisine tous les jours, on a l'habitude de ça.
Et l'ordre et la propreté dans la cuisine, ça aide aussi. C'est-à-dire, on voit plus clair dans son esprit quand le plan de travail est bien organisé. Ouais, mais pas que propre.
C'est-à-dire
que
tu vois,
quand t'as la chance d'aller dans la cuisine des chefs, et j'ai déjà eu la chance de voir celle de Jean-François.
Tu es au courant qu'il travaille dans vos cuisines?
Elle est ouverte.
C'est entre nous. Hein. C'est lui qui fait la carte.
Non seulement elle est ouverte, mais même de la rue, les gens peuvent voir la cuisine. C'est l'originalité du grand restaurant. Mais tu as les crudités qui sont réservées dans un coin, légumes dans l'autre, machin, c'est bien posé, ils savent exactement où et quoi, et il n'y a rien qui traîne. Alors j'imagine que le sentiment de propreté, c'est urgent et c'est une exigence par rapport à la clientèle d'un 2 étoiles qui mérite d'avoir sa 3e étoile. Vous êtes obligé d'avoir cette référence de propreté, mais cette organisation presque mathématique, elle est urgente aussi?
Elle est urgente parce que quand on a plusieurs clients en même temps, il faut qu'on leur fasse manger dans un timing. Aujourd'hui, le timing dans un restaurant est extrêmement important. Et donc, si on n'a pas les idées claires, on ne tient pas le timing.
Mmh. Le rythme. Et puis, pour sortir des plats en même temps pour une table de 4, 5, 6 personnes. Ouais, quoi, ouais. C'est ça.
Et donc, c'est obligatoire. Ouais. Et puis, avant, moi, j'ai connu quand j'ai commencé, ça fait un peu vieux de le dire, mais les cuisines étaient moins organisées et on était moins rigoureux parce que les repas duraient plus longtemps. C'était une façon différente de faire la cuisine. Et ce qui a changé dans notre métier, c'est que tout le monde mange à la même heure et veut partir à la même heure. Donc il faut produire
Et à de moins en moins de temps pour le faire aussi. Zéro gras, signé Jean-François Piège, je ne l'ai pas dit, c'est chez Hachette Cuisine. Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous a dit que Jean-François venait dans l'émission.
Oui, et quand je pense à vous, Jean-François Piège, je pense au plaisir que procure votre cuisine, mais je pense aussi à votre devise et au film dont elle est tirée, et en VO, s'il vous plaît.
Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.
Ah, ça calme.
Alain Delon à Burt Lancaster dans Le Guépard de Visconti, cette formule « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change », c'est votre devise, c'est l'état d'esprit de votre cuisine, c'est celui que vous voulez aussi pour vos employés. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Toujours douter, toujours être en mouvement, sans quoi c'est la ruine assurée ?
Et d'autant plus aujourd'hui, je crois.
Pourquoi ?
Parce que avant, quand on ouvrait un restaurant, il suffisait de faire bon pour que ça marche. Mm-hmm. Aujourd'hui, il faut qu'il soit dans son époque. Il faut vivre avec son époque. Et ça, c'est, j'allais dire, je me l'applique à mon métier, mais je pense que on fait de la radio différemment aujourd'hui qu'avant.
Pas ici, c'est très basique.
Il y a une grille qu'on va suivre.
Mais c'est une chose de savoir cuisiner, d'être créatif, d'inventer, et une autre de sentir ce temps.
Ouais, après, c'est pour ça que moi, je sais que la gastronomie, c'est quelque chose que je ferai un temps, et un jour j'arrêterai, parce que je pense qu'à un moment donné, on peut pas avoir ce sentiment-là toute sa vie.
Comment est-ce que vous faites justement pour sentir le temps, votre temps?
Je me trompe parfois, souvent, et j'essaye de me corriger.
Et là, le temps, il serait à quoi s'il fallait donner des indications de façon un peu plus concrète pour nous? Qu'est-ce que vous sentez?
Moi, ce que je sens aujourd'hui, et je me l'applique dans ma cuisine, c'est que on n'empile pas quotidiennement les protéines. C'est-à-dire que souvent dans la cuisine française, on empilait les protéines. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vais prendre une...
Viande et poisson?
Non, c'est viande sur poisson ou poisson sur poisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une sauce, je me tourne vers le monde végétal peut-être pour faire la sauce. C'est une sauce albufera, c'est une sauce à base de foie gras, de crème, de beurre, qui venait napper une volaille pochée. C'est sublimement bon. Mais franchement, quand on en a mangé ça, on a envie d'aller dormir après. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va cuire la volaille dans le riz et on va la servir avec une extraction de jus de céleri. Un jus de céleri qu'on a cuit au four, qu'on a passé à l'extracteur de légumes. Et on va avoir une sauce qui sera très punchy. On va goûter la volaille différemment. C'est une autre façon d'aborder la cuisine.
C'est presque un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'on a trop pris l'habitude de manger certaines viandes ou certaines sauces ou de cuisiner au beurre le steak sur la poêle. C'est un réflexe presque de nos grands-parents. Quoi.
Mais c'est la tradition, c'est pour ça. Ça revient. Il faut que ça change, en fait.
Donc, la fameuse noisette de beurre, il faut que...
Alors, la noisette, ça va. C'est la cuillère qui va pas.
C'est la cuillère.
Mais ça n'empêche pas de temps en temps de se faire la recette qui vous fait faire la sieste après.
Eh ben vous savez, ça tombe bien et c'est pour ça que...
C'est pas bon.
Je peux faire la minute auto-promo.
Ouais, je t'en prie.
Le truc, il est simple. Je viens de racheter un restaurant qui s'appelle La Poule au Pot. C'est un restaurant d'identité française où on va manger du parmentier, de la blanquette et le reste. Parce que, effectivement, parfois, on a envie de ça.
Oui. C'est réconfortant.
C'est un restaurant historique, non?
Historique, il y a 100 ans.
Ah ouais, carrément.
Ouais, et on est les troisièmes propriétaires depuis 100 ans. Alors pour moi, c'est quelque chose de différent, parce qu'on va se glisser dans l'histoire, on va pas créer l'histoire, on va se glisser dans l'histoire d'un autre, de ceux qui étaient avant nous, mais on va se l'approprier quand même.
Est-ce que dans vos restaurants comme Clover ou comme le grand restaurant, vous appliquez ce zéro gras?
L'asperge au grand restaurant.
Ouais.
Il y a cette possibilité-là, quoi. Quand on est client, on peut choisir cette alternative.
En fait,
c'est ça souvent le problème.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du marketing. C'est zéro gras parce que j'ai trouvé que la façon de cuisiner là, c'était meilleur que si j'en utilisais. Mm-hmm. Mais ça veut pas dire que j'utilise pas de gras à côté. Hein. Et
alors pourquoi vous l'utilisez?
Le gras, parce que dans d'autres préparations...
Non, plus loin quoi? Quelle préparation?
Par exemple, je pense que si on fait une sole meunière... qu'on a envie de manger de temps en temps, ça sert à rien de chercher à remplacer la sole meunière, ça sera jamais aussi bon qu'avec du beurre.
Ça sert à rien, vous avez essayé, c'était pas aussi bon, et finalement vous avez dit, je laisse.
Je rate plus que je réussis, hein. Si c'était ça la question, merci. Je confirme,
non,
mais
non,
en
non.
fait la cuisine
non, c'est parce que non, la question c'est de savoir, est-ce que vous avez des espèces d'idées comme ça, d'évidences établies, ou est-ce que vous essayez et vous apprenez de vos échecs?
Quand j'ai racheté le précédent restaurant, là, pour moi, un plat, et je me suis dit, le plat emblématique des Français qui évoque la tradition française, c'est lequel? C'est la...
Blanquette.
Blanquette. Oh, la blanquette.
Oh, je suis trop content d'avoir gagné.
Facile. Facile. J'étais sûr.
Ah, bravo. Était bonne.
Un point.
Et deuxième question, je suis chaud.
Au couscous.
Et j'étais sûr de pouvoir la faire. Franchement, on a mangé au personnel la blanquette pendant 3 semaines. Parce que j'avais pas compris le prisme de la blanquette. J'étais sûr de savoir faire la meilleure blanquette.
Et vous avez oublié le veau.
C'est ça. Et ben justement, je pensais que c'était le veau. Et c'était pas ça.
C'est quoi la voûte,
pour moi,
la clé de voûte
la clé de voûte. Il faut, ça, faut faire confiance à la nature. Et là, c'est là où le gras est important. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait de la blanquette, j'ai dit, tiens, on va choisir les morceaux de veau. Mm-hmm. Alors, c'était pas bon, c'était filandreux, la sauce était pas bonne. Et je me suis dit, là, ça va pas, là. Et une fois que j'étais sûr que j'allais y arriver, franchement, j'ai eu un gros coup de flip. Parce que je me suis dit, tu vas passer pour un...
Mais vous m'avez toujours pas dit quelle était la clé de voûte.
Ouais, mais j'y viens, ouais, ça se mérite, ça se mérite. Et la clé de voûte, c'est la nature. Et la nature, il faut aller chercher des produits extrêmement naturels pour faire une blanquette. Et on a trouvé une crème de vache pinoire en Bretagne. En fait, le goût de la blanquette, c'est la sauce. C'est pas le veau. Alors le veau, effectivement, on va chercher un veau dans le Pays Basque, qui a un veau qui est un petit peu plus coloré, qui est pas blanc, qui a un petit peu plus de goût. Mais comme on le cuit dans l'eau, et ça revient à la logique des asperges, tout ça se mélange. Et en fait, c'est pas l'identité gustative. L'identité gustative, c'est une crème de vache pinoire sur la crème crue de Bretagne. Et je peux vous dire qu'il y a ce goût fermier, ça change tout.
Je rappelle que le veau en question avait à peine 5 mois et n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa maman. Zéro gosse.
Alors non, parce que nous, on n'achète pas des...
C'est
non,
des veaux de 35 ans, donc du coup, ouais. C'est bon.
J'aime pas les petits veaux.
Il a quelques mois quand même.
Oui.
Il a maximum 7 mois, j'imagine, pas plus.
En fait, il est un peu plus lourd. Nous, on achète des veaux de 180 kilos, donc il est peut-être parfois, parce qu'il est bien formé. Après, ça, c'est un débat.
Non, c'est pas. C'est,
ça,
non,
ça,
c'est,
ça
pas.
C'est un autre débat. Je sais que vous y êtes sensible. Mais comme je suis cuisinier, que
il ouvre un nouveau resto, Nagui, sois sympa.
Que j'ai besoin d'ingrédients pour cuisiner. Non, mais voilà. Après, ça, c'est un autre débat. Mais nous.
Il n'empêche, pardon, votre nutritionniste, quand vous l'aviez vu, la quantité, tout à l'heure vous avez dit, il faut arrêter.
Et il y a la quantité.
Il faut arrêter protéines sur protéines. Mmh. Est-ce que la consommation de viande et de poisson rentre aussi dans votre
la quantité,
reconsidération? Ouais.
Après moi, je ne veux pas parler pour un professionnel, mais la quantité aussi.
Ouais.
Évidemment. Mmh. Et puis, de toute façon, depuis toujours, moi, avant d'être cuisinier, je voulais être jardinier. Donc j'ai toujours eu une approche du monde végétal assez forte. Clover, qui est le premier restaurant qu'on a fait, Lodi et moi, on va le rebaptiser Clover Green.
Green ou Grill?
Non, Grill, celui-là, il existe.
Voilà.
Et on va le rebaptiser Clover Green parce que on veut travailler... mais on va pas passer de la protéine, mais on va la travailler différemment.
Il y a la protéine végétale aussi.
Ouais, oui, il y a la protéine végétale, mais par exemple, on va pas faire un bœuf-carotte, on va faire un carotte-bœuf.
Ah oui.
Et on va mettre, alors il y aura des plats totalement sans viande et sans poisson, mais c'est un jeu que j'aime bien en fait, et on arrive à faire des trucs dingues. On est en train de travailler dessus, il va sortir dans les jours qui arrivent, mais même une salade de pois chiches souvent quand on fait une salade de pois chiches, on ramène la texture et le petit goût qui est différent, on met une brunoise de lard ou de jambon. Eh ben, on a fait fermenter des pois chiches, on les a mis dans l'eau pendant 8 heures, on les a fait sécher, on les a fait frire, et ça fait des pois chiches soufflés qui se mélangent dans la salade de pois chiches, c'est dingue. C'est une approche qui est différente, mais moi j'aime bien aussi cette approche. Je pense que la cuisine, mon métier, moi, c'est faire plaisir aux autres.
Ouais, et puis le deuxième cœur, c'est un peu ce qui se passe dans le ventre, la digestion est très très très,
très importante.
Important.
Et donc d'avoir plusieurs expressions culinaires, que ce soit le gastro, le monde de la cuisson à la braise, mais malheureusement non, mais où la viande prend beaucoup d'espace, d'avoir un restaurant où la viande et le poisson en prend beaucoup moins, et un, comme on est français, où il y a la tradition française, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs restaurants. C'est pas pour collectionner les restaurants, c'est pour prendre du plaisir à m'exprimer différemment.
Et que chaque client y trouve son compte, en fonction de l'adresse où il se rend. En tout cas, vous trouverez votre compte dans ces recettes simples, testées par Tom Villa et approuvées par l'équipe. Zéro gras, 50 recettes chez Hachette Cuisine. Voici Jérémy Crédil.
Et bonsoir.
Et bonsoir. À 11h34, bonsoir. Comment tu vis, toi?
Très bien. Salut les honnêtes gens et salut Nagui. Je vais vous parler d'un truc qui fait froid dans le dos et qui n'est pas le slip de Tom Villa. C'est le nouvel assistant Google ou Google, comme le prononce ma mère. Le Google Duplex est capable de prendre un rendez-vous chez le coiffeur à votre place. C'est pour ça que ça m'a fait froid dans le dos, hein, vu ma coupe. Google Duplex peut me prendre pour un cas d'urgence ou Morin pour un cas désespéré. Cet assistant vocal a une voix humaine, c'est donc tout l'inverse de Gilles Verdez. Non, moi, yes. Non, franchement, ce genre d'intelligence artificielle me fait flipper. Et quand je dis intelligence artificielle, je ne parle plus de Gilles Verdez. Non. J'ai entendu la conversation entre le robot et le coiffeur. Bon, c'était chiant parce que ça reste une conversation de coiffeur. Mais à aucun moment, tu ne te doutes que c'est un robot qui parle parce qu'il imite des tics verbaux humains. Du genre, pour dire, vas-y, continue, tu m'intéresses.
Non.
Si, moi, même ici, entouré d'humains, je n'ai jamais entendu un « pour dire, continue, tu m'intéresses. Enfin, entouré d'humains. Dans le public, je me demande si certains sont pas en cire. Je dis ça par rapport à leur mobilité et par rapport à leur teint. Vous savez que maintenant, n'importe quel téléphone peut vous reconnaître à votre voix. Vraiment. Par exemple, si je prends le téléphone de Leïla et que je lui demande « Comment je m'appelle ?»
Grosse teub, vous vous appelez Grosse teub.
Vous avez, mais franchement, pas, mais le truc me connaît quoi, c'est dingue.
À ton mais ça va pas.
Téléphone de Leïla. Non mais à ton réellement besoin. Eh ben écoute, on est collègues.
Bon. Attends, je vais faire le test avec ma voix.
Essaye donc.
Là, il a du mal à dire petite.
Il prononce mal les P.
Pour que rien ne change, il faut que tout change.
Donc j'appuie sur le Siri.
En bas, ouais.
C'est ça. Et je dis comment je m'appelle.
Ouais.
Ok.
Ça me va si ça vous va.
Ah bah tu vois.
J'ai rien dit. Comment je m'appelle?
Vous êtes grosse teub.
Ah, vous aussi? Ah ouais, elle te vous voit, toi.
Moi, tu vois. En fait, t'as fait un groupe.
Faites de l'escrime. Voilà,
c'est ça.
Tout le boulot, ouais.
Bon, bref. Pour en venir à ma chronique.
Attends. Il va quand même toucher des droits d'auteur.
Mais c'est génial. Continuons.
Bravo, mon lapin.
Ouais, merci. Non, mais a-t-on réellement besoin d'une intelligence artificielle pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur? Ou de monsieur tout seul qui te fait des signes pour garer ta voiture dans un parking à moitié vide? A-t-on besoin d'un assistant personnel quand on est personne? Hein, en plus, on est de plus en plus assistés. Vraiment. Hein, demain, les voitures autonomes t'emmèneront d'un point A à un point B sans que tu n'aies à toucher le volant. Ah ben c'est des taxis en fait. Et ces aides, c'est comme des Allemands dans un camp naturiste. Il y en a partout. Moi, je vois au Théâtre du Marais où sont programmés des gens aussi talentueux que Marina Rollman ou encore Jérémy Crédville. Ouais. Les proprios ne cessent de me dire qu'on n'est jamais trop aidés. Franchement, tu ne peux plus écrire un SMS sans que le correcteur automatique ne s'immisce dans conversation. Ça, vraiment. Vrai. L'autre fois, j'envoie un message à une pote, j'écris « ça va », elle a reçu « quand est-ce qu'on baise ?» C'est quand même scandaleux. C'est dingue. Et à la base, c'est fait pour gagner du temps. Or, tu passes plus de temps à corriger ton correcteur qu'à écrire ton message. Astrala, dans 20 ans, on aura tous les capacités énergétiques de Doc Gynéco. Franchement, avant, on devait se lever pour appuyer sur les boutons de la télé pour zapper quand on y voyait Nagui. Puis, est arrivée la télécommande et ses criants se mot, la télécommande, et toi tu obéis. Maintenant, de chez toi, tu peux presque tout commander à la voix, sauf si t'es Étienne Dao. Hein. Ok Google, mets-moi l'album Blitz, s'il te plaît. Google.
Google.
Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre demande. Bref. Et les robots sont partout. La dernière fois que j'ai fait l'amour, on m'a dit t'es une machine. Donc franchement, c'est bon. Bientôt, Google Duplex sera capable d'imiter ta voix et de téléphoner à ta mère à ta place. Et peut-être que ta mère aura elle aussi Google Duplex et que les deux Google Duplex auront une conversation. Du coup, nous, on va perdre notre capacité de langage et on va devenir des Sims ou des ch'tis. Au moment où je parle, il y a des intelligences artificielles qui écrivent des livres. Dans 3 ans, Musso, c'est Terminator. Vraiment. À cause des algorithmes, il y a des fenêtres de produits pour agrandir votre pénis sur les écrans d'ordinateur. Alors que franchement, ça gratte plus que ça ne marche. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiet pour mes chroniques. Je me dis que demain, il y aura forcément des intelligences artificielles capables d'en rire.
Merci, j'avais cru.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Jean-François Piège, le chef étoilé, notre invité, il signe zéro gras. C'est de la plus
c'est contagieux.
Zéro ouais. Gros. Zéro gras, 50 recettes chez Hachette Cuisine. On va évoquer la musique que vous écoutiez, Jean-François, dans les années 83.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie.
Oh yeah.
Fan de Lidl depuis toujours ?
Toujours, ouais.
Toujours. 83.
C'est une date importante dans votre vie, Jean-François Piège, parce que c'est l'histoire d'un déjeuner qui change une vie. Alors, parfois, on rencontre la femme de sa vie. Bah vous êtes tombé, on va dire, en amour avec un métier.
Oui, c'est un déjeuner dans la ville où je suis né, à Valence. chez le père d'une cuisinière aujourd'hui très connue qui s'appelle Anne-Sophie Pic. C'était son papa Jacques Pic. Et c'est un déjeuner, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai encore le menu rangé
dans vos archives personnelles.
Dans mes archives personnelles. Je suis un peu archiviste. Et c'était dingue. Après, je sais.
C'était dingue. Pourquoi c'était dingue?
Bah parce que c'est la première fois que j'allais dans un restaurant gastronomique.
Ouais.
Que c'est un.
Vous y avez 13 ans.
J'avais 13 ans et c'est en plus une histoire assez rigolote, c'est que pour se payer ce repas, on jouait au rami avec ma maman. Celui qui payait. De toute façon, celle qui payait, c'est celle qui me donnait l'argent.
Oui, oui, c'est... Dire, c'est
bizarre. Non, circuit fermé.
Ouais, mais sauf que
mais
il y avait
élégante pour voir qui allait.
Voilà.
Faire
et
le geste.
On jouait au rami et on s'était fait une cagnotte. Je crois qu'on a dû mettre 2 ans.
Mais est-ce qu'à 13 ans, on a les papilles.
Ben, c'est pour ça que
structurées pour aimer la grande cuisine.
Je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit doute parce qu'en fait, c'est comme le vin. Le vin, pour savoir ce qu'est du Pétrus ou de la Romanée Conti, il faut avoir goûté beaucoup de vin et plusieurs fois. C'est comme ça qu'on peut en apprécier la qualité.
Ah, Daniel.
Ah ouais, ouais. Je bosse.
Et d'ailleurs, il y en a un joli verre. Tu vois. Et donc, en fait, non, je suis pas sûr, mais en tous les cas, ça m'a provoqué beaucoup d'émotions et c'est important, en fait.
On peut pas écouter Johnny sans évoquer le manque et son absence. Vous avez accompagné Johnny pendant plusieurs. Peu importe, semaine, mois, année, mais pratiquement jusqu'au bout.
Mmh. Ouais, c'était quelqu'un de rare, en fait. Rare parce qu'il savait, ça tombe sous le sens, il avait tellement voyagé, tellement tout goûté, que quand il disait quelque chose, ça me touchait parce que, d'une part, c'était quelqu'un d'élégant, de gentil, enfin, je vais pas faire une liste non exhaustive des adjectifs qui peuvent le qualifier, mais il avait une connaissance assez incroyable du monde. Et du monde de la cuisine, parce qu'il était tous les jours au restaurant, il a été dans tous les restaurants du monde. Et j'aimais bien partager ces moments avec lui.
Et vous avez cuisiné pour lui jusqu'au dernier jour, au dernier repas. 1992, vous écoutiez Téléphone. Il n'y a jamais de musique dans les cuisines. Pourquoi?
Si, le matin.
Ah, vous mettez de la musique?
Ouais, le matin. Ouais.
D'accord. Il y a une playlist ou c'est chacun fait ce qu'il veut?
Quand je suis là, il y a celle qui est organisée. Quand je suis pas là, ils font ce qu'ils veulent.
Et dans l'itinéraire d'un cuisinier, c'est un peu comme l'itinéraire d'un peintre. Il y a des périodes. Et 92, ouais. C'est la période Ducasse.
Ouais. J'arrive, ouais, c'est un homme qui m'a...
À Monaco, hein.
Qui m'a guidé, qui s'appelle Bruno Cirino, qui avait travaillé avec Alain Ducasse, qui m'a dit... dans ta vie, il faut que tu ailles travailler dans un hôtel parce qu'un jour tu seras peut-être le chef d'un hôtel. Et il m'avait envoyé travailler au Crayon avec Christian Constant. J'étais le chef du Crayon et il m'a dit il faut que tu travailles avec un grand maître. Et donc il m'avait envoyé chez Ducasse. Je suis resté 12 ans.
Et Ducasse, c'est la compétition aussi au sein de sa cuisine, c'est-à-dire faut être le meilleur parce que quand il y a une place à prendre, peu importe l'ancienneté, on va dire, hein, dans la cuisine,
ouais,
ce qui compte, c'est la performance.
C'est la performance. Ouais. Ouais. C'est une école de performance assez incroyable. Après, ça marchait bien dans ces années-là. Je ne sais pas si aujourd'hui ça marchera encore.
Et quelle nature vous étiez, vous, à l'époque? Parce que confronté à la compétition, on n'est pas tous égaux. On y va avec la boule au ventre à la cuisine, en cuisine, en se disant « il faut que je sorte le meilleur aujourd'hui », mais c'est assez aléatoire tout ça.
Oui, c'est aléatoire. Mais je pense que la boule au ventre, soit on la prend comme un fardeau, et c'est cette boule qu'on tire, soit c'est une motivation. Moi, c'est une motivation, en fait. C'est la peur de décevoir. C'est pas la peur de mal faire, c'est la peur de décevoir. Et je pense que le métier de cuisinier, mais comme tous les métiers, c'est envie de faire plaisir aux autres. Si on a ça au plus profond de soi,
ouais,
si on
partage,
a envie de faire plaisir.
Ouais. Et franchement, enfin ça c'est valable pour n'importe qui autour de cette table. C'est dès l'instant où on prépare un plat, le premier plaisir, il est de le poser sur la table et de l'offrir aux autres. C'est un cadeau.
Le travail de votre émission, le travail de tout ça, c'est ça. Si on a envie de faire plaisir aux autres, on pourra pas plaire à tout le monde. Ça malheureusement, c'est des rêves d'enfants qu'on.
Non, mais tant mieux quelque part. Aussi.
Mais tant mieux parce qu'on est quelqu'un et on a des points de vue. Et je pense qu'il faut pas être lisse. Mais il faut avoir envie de faire plaisir aux autres.
Et vous lui avez fait plaisir, Alain Ducasse. En 2000, vous êtes son chef au Plaza Athénée.
Ouais, même avant.
C'est, ouais, et puis c'est le jour de vos 30 ans que le Plaza ouvre ses portes. C'est aussi.
Merci de rappeler que je vais avoir 48 ans, c'est gentil. Non, merci, c'est sympa.
Mais c'est beau, c'est symbolique, il y a quelque chose de, ouais. d'assez.
Non, en
d'assez
fait, c'était
touchant.
Une discussion un jour dans le bureau. Il me dit on était
tous,
plusieurs,
Jean-François.
On ouvre quand ? Et au même rythme. Il me dit on ouvre quand ? On devait ouvrir le 22, 23, 24. Et puis je sais pas pourquoi, on était plusieurs, hein, j'étais pas le seul. Je dis bah, on a qu'à ouvrir lundi. Lundi, c'était lundi 25 septembre 2000. Et c'était le jour. Et je rigole, je dis, tout le monde, c'est le jour de mes 30 ans. Et. Ah ben, bah, allez, on y va. Voilà,
ça, allez, ça fait la blague. Ouais. Et, trois, et ça a fait surtout 3 étoiles. Ensuite, en 2001. En 2010, vous écoutiez.
On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas. Toi, la télé et moi.
Tiens, la pizza, c'est sans gras. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre dans une pizza.
Ah non. Mais c'est franchement, c'est un des trucs que je kiffe.
La pizza ?
Ah ouais, j'adore. J'adore, pardon, mais.
Il y a du gras dans la pâte, non ?
Dans la pâte, il n'y a pas beaucoup, mais c'est surtout si on
ça
met beaucoup de mozzarella. Ouais, il ouais, y a un petit peu d'huile si on veut.
Si
ou pas.
Tu l'as fait cuire au riz et.
Alors ça marche bien, mais ça s'appelle un bao.
Mais la mozza a du gras.
Ouais. Mais c'est pour ça.
C'est vrai, ouais. trop de gras.
Bah trop, je sais pas, mais non, en
je
tous
sais pas,
les cas,
un fromage considéré comme gras en tout cas pour vous.
Je suis pas nutritionniste et je suis pas docteur, mais je pense que les gens qui disent on mange une tomate mozzarella, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bon repas.
Bah, vous surtout proposez une alternative avec les betteraves.
Mais c'est pour ça que je l'ai fait en fait. Ouais. Alors après attention, hein, je l'ai fait. C'est des choses qu'on pourra évoquer, mais quand j'ai entendu 5 fruits et légumes, il y a des fruits qu'on mange qui donnent une quantité de sucre qui va pas pour un régime. Donc ça, c'est...
Alors, on va en parler dans quelques instants. Benabar, qui est aussi l'un de vos grands amis, avec cette chanson que vous écoutiez en 2010.
Et 2010,
année marquante.
C'est la période, non plus du cas, c'est la période Jean-François Piège. Vous ouvrez votre propre restaurant gastronomique à Paris, le Jean-François Piège. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est écrit dessus, on se plante pas. Il n'y a pas de malentendu.
J'ai fait pire après, j'ai appelé le grand restaurant.
Le grand restaurant, ouais. au moins c'est clair.
Mais après, je me suis toujours dit, tiens, ceux qui comprendront qu'on un peu d'humour, ils comprendront. Ceux qui ont pris de le comprendre, c'est pas grave. Ça se dit pas, mais il y avait un fameux réalisateur qui avait dit lors du Festival de Cannes, je crois que ça tombe sous le sens. Ouais. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas.
Piala
qui avait dit ça. Oh, le grand restaurant, c'était ça. Ouais. Si vous comprenez qu'on a un peu d'humour, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, vous savez quoi, restez dans votre coin.
Et pourquoi avoir attendu autant de temps pour ouvrir votre propre restaurant ? On pourrait se dire ça, parce que vous avez été hyper rapide sur toutes les étapes.
Je me pose des questions parfois. Je me pose des questions moi-même, mais après, parfois, c'est le chemin de vie qui fait comme ça. Peut-être que, en fait, c'est l'année où je me suis marié, 2010. Je pense qu'aussi, c'est parce que dans la vie, il faut savoir être... Je pense que mon épouse m'a donné le courage de le faire. Mmh. Voilà. Et donc, si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai fait avec elle. Parce que, à deux, on est plus fort que tout seul. Et c'est peut-être ça qui m'a donné ce courage-là. Peut-être qu'avant, j'aurais pas eu ce courage-là.
Zéro gras, Jean-François Piège signe ce livre de recettes, plus de 50 recettes, sans gras, sans beurre, sans huile, mais avec le goût quand même. C'est publié chez Hachette Cuisine. Docteur Arnaud Cocol, merci de venir à ce micro. Vous êtes nutritionniste, on a des tonnes de questions à vous poser.
Ouais.
Évidemment, à commencer par le gras. Est-ce qu'il est bon ou mauvais pour la santé ? On parle du régime crétois à l'huile d'olive en disant c'est formidable, ça évite les maladies cardiovasculaires et ça permet la fluidité du sang dans le corps. Là, on la supprime, l'huile d'olive.
Non, je pense que le régime crétois est toujours d'actualité. Il y a une étude qui est sortie il y a 3 ans, Predimed, qui est une étude qui revoyait le régime crétois, qui malheureusement n'existe plus, parce que c'était dans les années 50 que les crétois mangeaient crétois. Maintenant, ils mangent des fast-foods, etc.
Donc, ça veut dire quoi, le régime crétois?
Alors, le régime crétois, c'était manger des animaux qui étaient élevés en liberté. Donc, vous aviez des chèvres, etc. Il y avait du poisson
sans
gras.
Sans hormones.
Vous avez compris, voilà. Effectivement, ouais. Sans injection de quoi que ce soit. Vous aviez des légumes qui étaient sans glyphosate, etc., sans Roundup. Et vous aviez donc des fruits qui également étaient des vrais fruits.
C'est la France dans les années 40, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
oui, tout à fait. Et en fait, on est en train de perdre tout ça. Donc le régime crétois a été revu avec, en plus, des fruits secs. Voilà, c'est-à-dire les amandes, tout ça, qui sont excellentes.
Et la cuisson ?
Alors la cuisson, on parlait...
Dans le régime crétois ?
Alors il ne faut pas trop cuire les aliments, parce que la température, l'excès de température, type le barbecue, oui, puis ça peut développer aussi des substances, des hydrocarbures, etc., des substances cancérigènes. Je vois que j'ai affaire à un professionnel.
Pas du tout.
Juste le cuisinier, il veut dire quelque chose, parce que c'est quelque chose que je fais au grill. Quand on fait un barbecue, et c'est la saison qui arrive, vous ne cuisez pas sur la braise. On cuit en dehors de la braise. Ça, c'est la base pour réussir un poisson, une viande ou un légume que vous allez cuire.
Et maîtriser la cuisson aussi.
Et maîtriser la cuisson. C'est qu'on ne pose pas au-dessus de la braise.
Mais à côté.
Ouais. Et c'est comme ça que la cuisson sera bonne.
À côté, à quelle distance ?
C'est-à-dire qu'on met la braise
genre
au fond.
10 cm.
Non, mais on met la braise sur un barbecue, on la met sur le fond et on cuit ce qui est à cuire devant.
Ça évitera de flamber. C'est-à-dire c'est le gras qui tombe sur les
braises. Et donc les hydrocarbures qui se déposent dessus.
Mais le noir des barres du barbecue qui crame.
La réaction de Maillard, faut pas confondre. La réaction de Maillard, c'est une réaction qui se produit sur les protéines où elle change de couleur par la chaleur. Ce qui est grillé pas bon, c'est quand c'est ferré, quand c'est trop chaud et quand la flamme est venue se déposer dessus. D'accord. Ça, c'est pas bon. Mais on peut avoir les mêmes réactions par la réaction de Maillard, elle, qui est juste la température. Ce qu'il faut pas, c'est cuire sur la braise, parce que quand la graisse tombe dessus, elle flambe et elle pose des hydrocarbures. C'est cancérigène, c'est pas bon. Devant.
L'ennemi de la santé, docteur Arnaud, Coco, vous me voyez arriver. Est-ce que c'est le gras ou le sucre ?
Bonne question, mais ni l'un ni l'autre, mon cher capitaine. Parce que ça dépend si vous êtes Inuit ou si vous êtes, par exemple, Indien d'Amérique.
La constitution du bolivienne. Corps et l'origine ethnique a une influence.
Les Inuits, ils vont manger très gras.
D'accord.
Par contre, les Tsimans, qui sont une population...
besoin pour se protéger, j'imagine.
Complètement. Ouais. Et alors, c'est le mode alimentaire, parce que sur place, il n'y a pas de glucides. Hein. Vous n'avez pas de féculents, il n'y a rien du tout.
De la glace.
Par contre, les Tsimans, qui sont une population d'Indiens de Bolivie, consomment exclusivement des sucres. C'est-à-dire une proportion de sucre extrêmement importante. Mais le sucre, c'est le plantain, c'est le manioc, c'est le maïs,
c'est du sucre naturel et pas industriel.
C'est le sucre naturel et non pas le sucre rajouté et raffiné. Donc en fait, dans les deux cas, vous voyez qu'en fait, ils ont une longévité qui est extraordinaire, avec une diminution des maladies cardiovasculaires qui est absolument prodigieuse. Donc ça dépend des populations, ça dépend... Où est-ce que vous avez votre origine ethnique ? Où est-ce que vous avez été élevé ? Comment vous pratiquez ? Après, comment votre tube digestif, c'est-à-dire la flore digestive, également se modifie en fonction de dépressement des populations ?
J'ai cru comprendre que c'était le sucre qui faisait qu'il retenait le mauvais du gras dans le corps. C'était la conjonction en fait des deux qui était nuisible pour la santé.
On mange trop de sucre ajouté. Ça, c'est les aliments ultra transformés.
Et il y en a partout.
Ça, c'est une vraie problématique. Ouais. Donc, il faut revenir à une alimentation, évidemment, classique. Mais il y a des gens qui mangent trop de gras également. Et parfois, il y a des patients qui me disent « je mange trop de sucre ». Alors, quand je leur dis quel est le type de sucre que vous mangez, c'est le chocolat, par exemple. Le chocolat, vous savez, et Jean-François Piège le sait, c'est du gras sucré. Donc, vous avez la conjonction des deux. Donc, en fait, les gens, ils amalgament beaucoup.
C'est la peine maximum, le chocolat, pour vous ?
Non, le chocolat, pourvu qu'il soit bon. Mais moi, j'interdis rien, de toute façon. J'interdis jamais rien à mes patients, donc, parce que je trouve que les interdits, développent des troubles de comportement alimentaire.
Absolument. Il faut se priver de rien. Ce qu'il faut condamner, sont les excès, ce qui est valable pour tout.
Et ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, incertainement, vous avez cité les portions. Vous avez parlé des portions. Et ça, je pense que c'est un message fondamental. Donc, n'oubliez pas ma parole, ça va être de limiter les portions. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, chacun doit avoir des portions adaptées. Donc, vous pouvez craquer, vous pouvez avoir un excès, mais ça dépend quelle taille de portion vous avez. Et pour contrôler cette portion, vous devez mastiquer, vous devez manger lentement et assis à table. C'est des règles basiques.
Pourquoi assis ?
Vous avez de plus en plus maintenant je vais faire un anglicisme, mais des street fooders. Vous voyez des gens qui sont au téléphone dans la rue en train de manger leur sandwich. Et votre cerveau est monotâche. Votre cerveau ne peut pas regarder un écran ou envoyer des SMS et en même temps manger. Vous voyez ?
Donc il ne faut pas faire les deux.
On fait une seule chose parce que votre cerveau il a besoin de ça. Et à ce moment-là, il est capable, comme unité centrale, de savoir entre vos apports et vos besoins quelle est la juste balance et incertainement de vous dire stop, je n'ai plus faim.
Mais il y a un truc qui est incroyable et que je recommande à tout le monde pour l'avoir découvert il y a quelques temps. Prenez le temps de mâcher. Mais moins de 20 fois, c'est louche. Donc, mais vraiment, amusez-vous à compter le nombre de
mastications.
mastication.
Oui, il y avait un Américain qui s'appelait Horace Fletcher qui mâchait 32 fois et qui avait perdu du poids extraordinairement.
Alors, j'avais pas le chiffre de 32, mais en l'occurrence, en le faisant, vous verrez simplement que vous digérez mieux, déjà, à la base. Après, mangez moins ou pas, on envoie un signal au corps qui est de dire je suis rassasié, parce que d'où l'intérêt aussi de commencer par une salade verte, parce que là, on est obligé de mâcher beaucoup plus. Mais surtout, on réduit à l'état de poudre ou de liquide l'aliment qui va ensuite être digéré par les sucs gastriques. Si vous avalez des morceaux trop gros, mal mâchés, et ben ça reste très longtemps et ça peut même finir par faisander dans le
oui,
dans
et puis
le
la moitié des Français...
De toute façon, dans certains restaurants, t'es obligé de mâcher très très longtemps vu la qualité de la viande. Donc, on va aller en premier.
Sauf pardon, docteur.
Et si vous mâchez lentement, comme vous dites, vous allez sortir de table en ayant pas mal à l'estomac et vous savez, ou aux intestins, et vous savez que 50% pratiquement des Français souffrent de troubles fonctionnels intestinaux, le syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire ils ballonnent, ils ont mal, et en fait ils ont trop mangé, ils sont des outre-mangeurs.
Oui, non, c'est limiter les quantités, vous avez totalement raison. Est-ce qu'il est vraiment rationnel de dire on peut manger sans gras, on peut manger sans sucre, on peut suivre les saisons, on va manger bio pour ne pas avoir de pesticides, de glyphosate, de machin, on va manger moins de viande. Il y a un moment où, pardon, hein, on sait plus quoi faire, c'est saoulant. C'est-à-dire que dès l'instant où on arrive devant une assiette, on culpabilise en se disant « Oh là, alors, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça ?»
Tu finis par manger un truc bien mauvais pour toi, tu dis « Tant qu'à faire, on y va. »
C'est que ça prend, on est perdu.
C'est que ça prend la tête.
Mais vous avez raison, Daniel. Les gens sont face à une cacophonie nutritionnelle, c'est-à-dire on est complètement perdu. Donc les messages doivent revenir vers les fondamentaux. Les fondamentaux, qu'est-ce que je réexplique à mes patients ? Je leur dis déjà, vous venez me voir, il n'y aura pas de régime. Donc je suis contre les régimes parce que ça va être contre-productif. Et si vous venez me voir, c'est bien que vous êtes dans les déchets des régimes. Parce que les régimes perdent du poids, c'est pas la difficulté, c'est stabiliser la perte de poids. C'est ça qui est extrêmement
compliqué. Éviter le yo-yo.
Donc, éviter le fameux yo-yo. Ouais. Donc, après, c'est faire un état des lieux un petit peu de votre santé et dire, est-ce que vous prenez du temps pour manger? Est-ce que vous respectez les horaires? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé?
Est-ce que les horaires, c'est important?
Oui, les horaires, l'heure de sommeil également. Le fait de manquer de sommeil fait grossir. Il y a des gens qui ne mangent pas si mal que ça. Et en fait, ils ont d'autres problématiques. Alors, ils vous mettent en avant leurs problèmes d'assiette. Mais en fait, quand vous regardez, ils mangent mieux que moi parfois. Et leur problématique, elle est ailleurs. Ils sont stressés. En fait, ils ne prennent pas le temps de faire de l'activité physique.
Ils mangent mieux que vous, mais à 4h du mat.
Et du coup, parfois, il y en a certains qui sont en décalage horaire.
Le petit creux, le petit creux qui arrive.
C'est là tu prends du poids énorme.
Se réveiller, et il faut un certain temps, j'imagine, entre le repas du soir et se coucher.
Oui, une heure et demie, à peu près. Une heure et demie entre le dîner et le coucher, complètement. Ouais. Sinon, votre sommeil est complètement perturbé.
Troublé. Parmi tous les repères aussi, les signaux comme ça que l'on nous envoie, on a parlé donc du gras, du sucre, le sel.
Le sel, c'est le premier tueur en France. Donc, on se focalise sur le sucre et le gras.
Je crois que c'était le tabac, moi. Non, c'est le sel.
Le sel, c'est l'hypertension, en fait. Ça va déclencher l'hypertension. Et en mange, en France, le double de sel. Alors, je ne sais pas si Jean-François Piège fait un effort sur la consommation de sel ou l'adjonction de sel dans, dans sa cuisine. Parce que je pense que ça, c'est
indispensable. Moi, je pense que c'est tout. Il faut être raisonné aujourd'hui. Quand on parlait de nature, il faut faire attention à manger des légumes de saison. Ça va éviter qu'ils soient... surmaturité, trop de sucre et autres.
Ça évite surtout l'empreinte carbone.
Je parlais que de nutrition, c'est pour ça que je suis pas allé là-dessus, mais bien se faire à manger, c'est pas trop de sel et des légumes de saison et des ingrédients qui sont autour de soi. Si on regarde un petit peu autour, je peux vous dire que même à Paris, il y a des marchés de
Mais alors, pardon Jean-François, avec tout l'amour que je vous porte, et vous savez qu'il est sincère...
Ça va tomber, là.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a...
Ça va tomber, quand il prépare comme ça...
La sauce mayonnaise que vous proposez... Non, c'est pas la sauce mayonnaise, pardon. C'est la vinaigrette sans huile. Vous mettez de la sauce Worcestershire, qui est très sucrée. C'est-à-dire que là, vous remplacez en fait le gras par le sucre.
Alors, Nagui, c'est un livre sans gras. C'est pas un livre sans sucre.
Oui.
Fallait lire le titre.
Allez, bon appétit, Nagui. Ça va la digestion, Nagui?
C'est le coup de poing dans le plexus solaire qui fait le plus mal à la digestion.
Et pardon, je pense qu'il y en a 4 gouttes.
Mais
4 gouttes. Et en fait,
parce que moi, je
vais rejoindre ce que disait le docteur là.
Je me méfie du
sucre. C'est qu'en fait, si je mets pas cette sauce-là, la vinaigrette, elle est pas bonne.
D'accord.
Et en rajoutant 4 gouttes, et dans lequel il y a peut-être un petit peu de sucre, mais pas tant que ça, et on va manger 4 mg de sucre, mais on va prendre beaucoup de plaisir. Et je pense que, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un livre de régime, et je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre d'autres livres et aller voir des docteurs si on veut faire un régime.
Non, c'est un livre, 100 grammes.
100 grammes.
0 grammes. C'est écrit dans le titre, vous avez raison. Je viens de le relire à l'instant.
Non, mais voilà,
me voir pour faire un régime parce que je ne fais pas de régime. Ouais.
Une dernière question, docteur. Est-ce que la mode du végétarien, du vegan, du flexi-végétarien, voilà, c'est ça. C'est encore une fois, c'est un effet de mode, comme toutes celles qui disent « Ah non, moi c'est sans gluten !» Tout ça, c'est un effet de mode.
Mais pourquoi tu prends cette voix ?
Parce que généralement, elles ont cette voix.
Parce que le gluten... Les hommes aussi qui ne mangent pas de gluten.
Pendant des milliers d'années, on en a mangé, puis là, d'un coup, c'est « Ah, plus de gluten !»
On est en train de quitter un petit peu cette... et c'est un petit peu la peur que j'ai. On est en train de quitter la commensalité, c'est-à-dire le partage ensemble pour aller vers des nourritures de plus en plus individuel la question est-ce que on mangera encore demain ensemble. C'est un petit peu la
chacun
question.
Chacun son truc,
c'est-à-dire flexitarien, vegan, voilà. Paléolithique supérieur à la même table.
Bye bye au mot de ventre, c'est chez Flammarion, docteur Arnaud Cocol. Merci en tout cas d'être venu à ce micro apporter votre éclairage.
Les repas, c'est comme les infos, les horaires sont importants.
Tanguy, on se dépêche alors, on parle beaucoup. Bonjour Tanguy, les ministres sont de sortie aujourd'hui.
Oui, Nicolas Hulot est dans le Var, Benjamin Griveaux en Bretagne, Agnès Buzyn à Paris, cette feignante. Tous les ministres, des inconnus et les secrétaires d'État, encore moins connus que les inconnus, sont en vadrouille partout en France aujourd'hui, c'est formidable.
Et on en parle tout à l'heure après les infos de midi 1. C'est la bonne originale, soyez les bienvenus avec Emilia Cadeau Boudetti.
Bonjour à tous.
Jérémy Crévier, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Tom Villa.
Bonjour.
Et notre invité Jean-François Piège.
Bonjour.
Qui signe 0 gras, 50 recettes, plus de 50 recettes chez Hachette Cuisine. Tout à l'heure, le docteur Cocol qui était avec nous disait que tout le monde finirait par non plus manger ensemble, mais chacun dans son coin, sous-entendu. Chacun avec qui sans sucre, qui sans gras, qui sans viande, qui...
sans moi.
Qui sans toi, qui avec, et ainsi de suite. Pour revenir aux végétariens, est-ce que c'est quelque chose qui sonne à vos oreilles aussi de restaurateurs et de chefs de
faire attention. Oui, mais même à mes envies et à moi. Hein. J'ai pas envie de manger tous les jours
de la viande ou du
de
poisson.
De la viande ou du poisson, quoi.
Qui était un réflexe d'après-guerre, en fait. C'est-à-dire, nos parents,
suite
nos grands-parents.
Suite à la privation.
Voilà, c'est ça. On manquait. Voilà. Donc c'était signe de liberté. Et enfin, on peut à nouveau fini les tickets de rationnement. On peut à nouveau manger de la viande et du poisson.
Et on est en train d'essayer. On a fait un jus de haricots verts grillés. Franchement, c'est dingue.
C'est-à-dire, c'est quoi un jus d'haricots verts?
On a grillé des haricots verts, c'est-à-dire qu'on les a cuits...
Dans le soja?
Non, on les a cuits sur la plaque à
dans
snacker.
Dans la viande
dans
sur la plaque à snacker, sur
d'accord.
Une plaque au chrome.
Ok.
Et on a mis une plaque dessus, et ils ont grillé, et on les a passés à l'extracteur de jus. Ça donne un jus, un velouté, ça a un goût, mais...
Et c'est caramel, les un peu, c'est quoi c'est...
Non, sucré, en fait.
Ouais. Ça, oui, c'est pour ça que je dis,
ouais,
pardon.
Ouais, c'est un côté, c'est un côté sucre doux, du haricot. Mais c'est incroyable, il n'y a presque rien à faire. Dessus.
Et ce jus, vous en faites quoi?
Ben, je sais pas encore, on a trouvé ça hier.
Je reprends mes volets.
On va voir. C'est ce qu'on appelle réservé.
Voilà.
On va voir. Sur un poulet.
On est au début.
Un petit vin de haricots.
Mais voilà, ça peut être peut-être avec une salade de haricots verts, des pêches, des amandes. Ce sera peut-être une langoustine juste.
Et on culpabilise beaucoup. On nous culpabilise, et même nous, médias, on culpabilise aussi ceux qui nous écoutent en disant manger propre, manger bio, éviter les pesticides, suivez les saisons, ce que l'on a dit. Tout à l'heure. Suivre les saisons, ça veut dire ne manger des tomates qu'en juillet, août, ce qui...
Ouais, mais jusqu'en octobre, ouais, sur ces mois-là, quand elles sont là. Mais pas les manger en hiver, c'est sûr.
Il y en a bien qui sont sous serre.
Ouais, mais celle-là, faut la laisser pour les autres. Si on arrête de les acheter, ils vont arrêter de les produire. C'est un truc bête.
Et là, il y a toute la communauté italienne qui vous attend en bas de la maison de radio.
Non, mais allons plus loin. Et les sauces tomates, à ce moment-là, comment faire
les sauces tomates, on fait comme faisait ma grand-mère.
On stocke pendant l'été dans des bocaux.
Dans des bocaux. Mais moi, je fais des bocaux au restaurant. Et certaines choses, je fais des bocaux.
Donc, vous les conservez?
Ah ouais.
Vous conservez des
bocaux. Non, mais c'est des goûts qu'on aime, en plus. Je le fais même, alors là, ça va être un peu snob, je le fais avec des truffes, je fais mariner des truffes que j'utilise le reste de l'année, je le fais pendant cette période-là. Je fais des fruits que je sers avec...
Parce que la période des truffes correspond à celle des tomates, septembre.
Non, alors ça c'est les blanches, mais les autres c'est en hiver. Mais par exemple, en ce moment, j'ai une recette à base de truffes, j'achète pas des truffes qui viennent d'ailleurs que celles que j'ai eues et que j'ai fait mariner moi dans ma petite préparation. Mmh. Je mets des...
Mais pardon, Jean-François, si on doit consommer que des produits de région en hiver, à part les endives, les asperges et le poireau, ouais,
les pommes de terre, les navets, les choux, les céleris, il y en a. Hein. Simplement, je pense
qu'il y en a
que...
plein qu'il n'y a pas, c'est ça que je veux dire aussi.
Oui, mais est-ce que si on mange toute l'année, on a envie ? L'envie, elle vient d'où ?
Du manque.
De l'attente, okay.
Hein, c'est quand, je crois qu'il y a un philosophe qui disait, c'est quand on monte l'escalier, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on attend d'arriver jusqu'en haut, et si on a tout le temps, on est toujours... ça ne marche pas en fait.
Puis il y a Johnny qui disait l'envie d'avoir envie, mais bon après c'est un autre débat.
Signé Jean-Jacques Goldman, très bien. Zéro gras, le livre de recettes de Jean-François Piège avec les modes de cuisson, on va en parler de ces six fameux, il y en a six, hein, c'est ça, modes de cuisson sans gras, parce que c'est la question qu'on se pose, c'est comment cuire sans le huile, contact. Sans beurre, sans crème. On en parle tout de suite après Tanguy Pasture. Tanguy, il serait temps d'en parler quand même. Aujourd'hui, les ministres du gouvernement sont en vadrouille.
Oui, puisqu'Édouard Philippe, le barbu non radicalisé, les a envoyés aux quatre coins de la France animer des groupes de parole. C'est comme les alcooliques anonymes, sauf qu'ils ne tournent pas à l'agnole, mais au mélange Red Bull, Guarana, Kérosène, salive de Lance Armstrong, afin d'arriver à suivre Macron, qui a la patate de la fusée Ariane au moment du décollage. Alors le but est de répondre aux questions que les gens se posent sur leur travail, genre elle est comment Brigitte en vrai ? Est-ce que Nemo pisse toujours sur le mobilier national ? Ou Gérard Collomb a-t-il vraiment connu l'Australopithèque Lucie dans son enfance ? Seuls trois ministres sont exemptés. Édouard Philippe, qui reste à Paris tout seul, il va pouvoir danser nu dans son bureau, fumer des bangs et mater sur YouTube le nouveau clip de Whitney Houston. Il a un peu de retard sur l'actu culturel parce qu'il passe sa vie à bosser. Hein. Là, il est sur le dernier Voltaire. Reste aussi à Paris Christophe Castaner, puisque ce soir, il fait l'émission politique sur la 2, l'une des 16 émissions auxquelles il participe ce jour parce qu'on le voit plus à la télé en 24 heures que Cadmerade depuis 2006. Ce matin, il était sur Motus, il a tiré trois fois la boule noire. Ensuite, il a Sophie Davant, TPMP, l'émission politique, de là, il bascule sur CNews et finit sur XXL dans un grand entretien avec John Birut, réalisé sous Cialis. Enfin, reste à Paris le secrétaire d'État Julien de Normandie. Bon, au départ, il devait l'envoyer dans la Manche, mais ils avaient peur que ça fasse comme nous avec le Mont-Saint-Michel, hein, que des Bretons le kidnappent en disant « il est à nous » et qu'il finisse en forêt de Brocéliande en tant que objet sexuel pour des druides en rut défoncés à la liqueur de fougère. Tous les autres ministres sont partis. C'est affreux. On va en province pour être peinard en disant « Ok, je vis à Mâcon, mais en contrepartie, il n'y a pas un politicard qui va venir me serrer la louche en me vendant sa soupe. » Et paf, on voit débarquer Bruno Le Maire, venu vanter sa gestion des finances du pays. Il reste 16,20€ dans les caisses. Donc même votre gosse au moment des étrennes a plus de taf. Et comme il n'y a que des anonymes dans le gouvernement, les provinciaux, ces gens qui n'ont jamais vu comme nous à Paris de rats de la taille de Jean-Paul Rouve, vont devoir se taper un cortège de 4 berlines avec gyrophares pour à la fin voir en sortir Muriel Pénicaud. Hein, c'est comme si dans Star Wars 12, une navette s'ouvrait et qu'apparaissait Jean Benguigui. Les gens seraient déçus. Ils diraient pourquoi cet Ewok a-t-il perdu tous ses poils ?
Bon alors aujourd'hui, quel ministre et dans quelle ville ?
Alors Gérard Collomb devait aller à Fresnes, hein, c'était une journée thématique autour de Jérôme Cahuzac. Seulement la maire de la ville, une socialiste mais qui pourtant se croit de gauche, s'y est opposée. Elle a avalé les clés de son théâtre de 150 places en criant « No Passaran » et Collomb, du coup, est à Rungis, hein, à côté, chez un maire Larem, un ami. Puisqu'à cause de sa loi asile-immigration, là, il ne peut plus se rendre à quelque endroit que ce soit où il y a des gens de gauche. Il le haïssent. Quand il passe devant Radio France, pris de panique, il traverse la Seine à la nage pour rejoindre la rive droite. À la fête de l'UMA, son espérance de vie est calculée par Eurosport en tant qu'épreuve sportive. 2 secondes, 17 centièmes. Sa grande peur est de croiser Pierre Arditi. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, est à Paris. Elle s'est pas foulée, donc techniquement, c'est du télétravail. Jean-Yves Le Drian est à Abbeville, hein, dans la Somme, où il va parler du tourisme. Alors, discuter de tourisme à Abbeville, c'est comme de faire une conférence sur l'abstinence et l'eau minérale à Cancun. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est à Toulouse, où elle s'est rendue à pied, puisqu'il n'y a pas de train. Elle est partie le 12 mars et est arrivée ce matin sur les genoux, en sang, avec 50 cm de moins en taille, parce que le bitume l'a rabotée. Hein, elle est prise sur Fort Boyard à la place de Passepartout. La chaîne voulait le virer à la seconde, où ils ont vu que sa nouvelle coupe de cheveux intégrait
dirait un catogan. Nicolas Hulot, le babtou fragile qui menace tous les 7 jours de claquer sa démission pour aller faire le kéké en kitesurf et dans le Var. Florence Parly, ministre des Armées, est à Verdun, qui fut détruite en 1916, un peu comme le visage de Meg Ryan, qu'il a été en 2004 par le docteur Stevens à Beverly Hills. Mais bon, à Verdun, il y a eu des morts. Hein. Dans le cas de Meg Ryan, il y a juste le naturel qui est décédé. Enfin, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, est à Hennebon, en Bretagne, dans le 5-6, comme disaient les membres du groupe Mano, avant de disparaître à la fin de leur carrière, 14 secondes plus tard. Bref, ils sont tous ici et là. Et je pense ce matin au village de Sauvagnon, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui malheureusement doit se taper une inconnue, Nathalie Loiseau. Ce n'est pas Footix venu sous pseudo, c'est une vraie dame. Hein, elle est aux affaires européennes et est moins connue que le professeur de lettres anciennes de Nabila, qui n'existe pas, donc c'est dire. Je pense à la ville de Chartres, qui n'a droit qu'à Jacques Mézard, à Ajaccio, qui a Jacqueline Gouraud, à Asnières, qui a Sophie Cluzel. Là, même si le chanteur Thierry Hazard passe au resto de sushi du coin, il y aura plus de gens pour le remettre. Tous ces ministres viennent nous vendre les réformes. C'est comme le camion qui passe dans les bourgades pour écouler les matelas, mais en moins confortable. Quoique, il faudrait s'allonger sur Jacques Mézard pour voir si ça se trouve, il est doux et soyeux. Bref, bonne journée à tous avec vos ministres inconnus.
Merci, Tony Bastos.
Vive la France.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Jean-François Piège signe un nouveau livre de recettes. J'ai dit un nouveau livre parce que je n'ai pas réussi à compter le nombre de livres de recettes que vous avez publiés, que ce soit d'ailleurs écrit de vos propres mains
ou cuisiné
à regret, voilà, ou cuisiné avec quelqu'un qui note ce que vous faites au fur et à mesure. Vous rendez compte ou pas du nombre de recettes que vous avez créées?
Non, je ne reviens pas. Non.
Et est-ce qu'on peut encore créer des recettes?
C'est le seul métier où l'INPI n'admet pas qu'on puisse déposer parce qu'on ne peut pas prouver l'antériorité.
Eh oui.
Donc personne n'est le propriétaire du macaron ou de la blanquette de veau?
Personne.
Ou
personne. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Je pense que, en tous les cas, c'est à ma sauce, j'allais dire, c'est mes recettes que je fais du moment, mais faut garder tout ça.
Alors, puisque la tomate mozza est dangereuse, et lourde, on va dire, ou grasse, il y a la betterave comme une mozza, ouais. J'adore l'idée de la recette.
Et puis c'est beau aussi, il faut dire, c'est tellement beau.
C'est joli à voir. Alors, il y a des grosses betteraves, il y a encore des feuilles de gélatine, du fromage blanc brassé à 0% de matière grasse, du lait crémé, du sel, une pomme verte et du vinaigre balsamique. J'ai rien oublié, peut-être, à part un peu de gros sel. Il sert à quoi le gros sel, là?
Pour cuire la betterave. On cuit la betterave dans le sel. Comme
en croûte, quoi.
En croûte, ouais. Mmh. Et c'est une belle cuisson. Souvent, les betteraves, on les cuit à l'eau. Moi, je sais quand j'étais...
Parce que cru, c'est pas bon, la betterave.
Mais en fait, j'aime bien opposer le cuit et le cru. Et le cru, je l'ai fait par la pomme verte. Mais voilà, c'est l'idée de se dire que un livre de recettes, c'est ma vision du moment et que chacun peut la faire comme il veut. Peut-être faire le siphon pour refaire la mozzarella comme elle est donnée et le faire avec une salade de betterave crue. En fait, c'est ça la cuisine. Il n'y a pas de vérité, c'est la vérité du moment.
Et est-ce qu'il y a un légume, un fruit, une saveur que vous n'aimiez pas, que vous avez réussi à apprivoiser avec le temps?
J'aimais pas le poisson quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi.
N'importe quel poisson, parce qu'ils n'ont pas tous le même goût non plus.
J'aimais pas. Mais je pense, alors très honnêtement, j'avais la chance d'être dans une famille où ma maman cuisinait super bien. Je suis pas sûr qu'elle cuisinait super bien le poisson. Puis à Valence, il y avait pas forcément de bons poissons. Donc, non, j'étais pas fan de ça. Et aujourd'hui, j'adore.
Pour en revenir à la manière de cuire, et notamment, restons sur la betterave et le gros sel. Là, vous le faites quoi? Au four, pareil, vous mettez du sel autour. Mais comment vous faites?
Comme une pomme de terre, pareil.
Est-ce qu'on protège la betterave de papier?
On peut le faire plusieurs façons.
Tout va marcher.
Si on a un plat qui a des rebords un peu grands, on met du sel au fond, on met du papier aluminium au four, ça marche. Si on n'a pas de plaque, on a une plaque, on fait un petit dôme. Et...
J'ai pas compris, pardon. Le papier aluminium, vous le mettez autour de la betterave ou au-dessus du sel?
Au-dessus, mais ça marcherait aussi si, sans sel, si on met du papier aluminium et les betteraves au four comme ça. Ah ouais. Ça marche aussi. C'est juste modifier le temps de cuisson.
Il y a un moment donné, la betterave va être beaucoup trop salée si elle est en contact avec le sel.
Et il y a la peau autour de la betterave et on enlève la peau. Et il n'y a pas d'échange, en fait.
Et ça ne rentre pas, non?
La peau, elle ne rentre pas, en fait. J'allais dire, c'est encore une cuisson possible. Et puis, il y en a une où je cuis dans des feuilles. Vous voulez parfumer, par exemple...
Feuilles de figuier, vous avez...
Ouais. Bah, vous prenez des feuilles de figuier, les betteraves dedans, dans le papier aluminium au four. J'ai jamais essayé, mais je suis sûr que c'est dingue. Je pense qu'il faut faire confiance à la nature. Et pourquoi on mange pas des tomates avec des asperges? Parce que la saison des tomates et sont des asperges, c'est pas la même. Et la nature, elle a toujours bien fait les choses.
Sauf quand il s'agit de Daniel Moreau.
Merci Nagui.
Le plaisir merci. Était pour moi.
Je le vois à votre visage. Alors Tanguy, on a parlé il y a 10 minutes, les ministres sont partis à la conquête du peuple. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a quand même précisé « On est d'abord là pour répondre aux questions que les gens se posent, pas là pour dire à quel point c'est formidable ce que l'on fait. » Ben c'est ballot. Ça aurait été drôle. Vous imaginez le gars devant une salle de cheminots? Vous savez quoi les prolos? Honnêtement, je pense que c'est formidable ce que fait le gouvernement. Le gars revient à Paris plié en 10 dans un colissimo avec un rail planté dans le croupion. Tanguy nous a fait la liste des ministres et des villes qu'ils allaient visiter, mais revenons sur le parcours de trois d'entre eux, Bruno Le Maire, qui va aller dans le Gers, Gérald Darmanin à Vichy et Jean-Yves Le Drian à Abbeville. Pour eux, ça risque d'être hyper folklorique. Et si Tanguy nous a donné le programme, moi je vais vous dire comment ça va se passer là-bas. Et on commence par Bruno Le Maire, dans le Sud-Ouest. Bien, bonjour à tous, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous dans cette magnifique région. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, hein, j'y répondrai, je vous assure, en toute franchise. Oui, monsieur ?
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, voilà, je suis agriculteur et je me demande pour l'avenir le métier, surtout que mon papier, sur quelle sanction je vais faire.
Pourquoi ? Oui, alors, en fait, j'ai pas bien compris votre question, monsieur.
Non, je voudrais savoir juste ce qu'il parle, le métier de la terre, l'élevage, ben, détendons-nous.
Question suivante.
Ça fait maintenant un énorme club, beaucoup de tigres qui confondent aucun problème pour l'élevage, les feuilles, céréales, dans la fête, et la quinquena.
Merci, je dois repartir à Paris. À très très bientôt. Ah ben c'est pas facile hein, dans le Gers. Hein. Est-ce que ça s'annonce plus aisé du côté d'Abbeville pour Jean-Yves Le Drian? Chers amis du Nord, bonjour. Pour vous dire la vérité, j'ai personnellement demandé à venir chez vous. Hein. Sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous voulez. Oui monsieur?
Je suis le mon gars, je suis Jean-Ki, je suis pas internet.
Oui, bonjour monsieur. Alors, avant de parler, je voulais dire ma gamin, on va prendre un coup à Siam. Je portais une bouteille d'alcool typique de chez région, Ricard. El Ricard, ma fille, je suis l'âme de la région. El Ricard, je suis le cœur du chinois. El Ricard, je tourne chaque col de nouvelles. Oui, quelle est votre question, monsieur?
J'ai pas fini. Votre parlant, je voudrais prendre l'apéro.
Enfin, monsieur, l'apéro, je suis pas contre, mais là, il est 15h, c'est un poteau quand même.
Non! N'entends jamais trop pour prendre chez Ricard. J'étais pour Paul Ricard, Timmy, ah bah tiens, Mousse-Basse.
Bon bah un verre, et c'est tout. Bon ministre, c'est pouvoir parler à tous les Français, et ce, malgré la barrière de la langue, les amis. Et Gérald Darmanin, qui est allé à Vichy, comment il va s'en sortir? À mon avis, ça va être un petit peu délicat. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici à Vichy, une ville, oui, qui souffre encore beaucoup trop d'un passé désormais révolu et dont elle n'est plus responsable. Bonjour, vous êtes le maire de la ville?
Non, monsieur Darmanin, je suis responsable de l'association des nostalgiques de la belle époque. Vous le savez, Vichy est une terre qui fut pendant 4 ans une terre d'espoir et de promesses, une terre qui avait su tendre la main à un ami frontalier qui, malheureusement, sous la pression bolchevique d'une Europe à la solde des métèques, a beaucoup perdu de son éclat. Monsieur Darmanin, ma question est simple. À quand l'expulsion, la prison ou l'exécution de tous les étrangers pris en flagrant délit d'existence sur notre territoire?
C'est-à-dire que ce que vous espérez n'est pas du tout prévu dans l'agenda du gouvernement?
Dans ce cas, monsieur le ministre, et à mon grand regret, je ne vous retiens pas. Notre milice associative va vous raccompagner à la gare, et si par le plus grand des hasards, ces sales cocos de cheminots avaient dans l'idée de travailler, vous prendrez le premier train pour Paris. Je ne vous salue pas, monsieur.
Pas tous les jours facile hein, d'être ministre. À demain.
Merci, Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Zéro gras, le livre de Jean-François Piège aux éditions Hachette Cuisine, plus de 50 recettes, mais tout part aussi du mode de cuisson. On a parlé de la cuisson à la vapeur que tout le monde connaît. Le bain-marie aussi, j'imagine, fait partie de ce mode de cuisson.
Entre deux assiettes.
Voilà. Ah oui, alors vous exactement.
Ouais, en fait, c'est une transgression. On prend une casserole, on pose une assiette dessus, on passe quelque chose qui a du goût, bon, de l'ail ou on peut mettre un peu de citron, deux filets de poisson, on retourne la deuxième assiette, on fait bouillir. En fait, c'est une cuisson sous vide. Simplement qu'à basse température.
L'eau bout dans la casserole, on a posé les assiettes au-dessus qui sont comme en sandwich, qui bloquent la nourriture.
Ouais.
Il faut pas qu'elle casse. Ça casse ou pas une assiette au chaud?
Enfin, elle cassera si elle est froide et qu'on la met au chaud, mais si elle est à température, une assiette, pour petite information, ça cuit à 1300 degrés. Donc ça cassera jamais. D'accord. Si vous mettez une assiette au four. Ce qui cassera, c'est le choc thermique. Donc si on la sort du chaud pour la mettre au froid.
Ou inversement, d'accord. Ou inversement. Mais là, il faut faire bouillir. L'eau, il faut laisser un tout petit peu de vapeur sortir ou au contraire
l'emprisonner? Non, ça se fait tout seul. Franchement, tout seul. Faut prendre une casserole qui a la dimension de l'assiette qui est un tout petit peu plus petite. On pose l'assiette dessus. on la frotte avant pour pas se brûler. On met chauffer les deux filets de poisson, deux filets de merlan. C'est en plus la saison. C'est quand c'est. Et puis il y a une deuxième chose qu'on n'a pas dit sur la saison, c'est quand c'est la saison, c'est moins cher.
Et c'est meilleur.
Super important. Et c'est meilleur. Et c'est aussi moins cher. On les cuit. On retourne l'assiette dessus. Un filet de merlan, ça fait 1,5 cm. Ça cuit en 2 minutes. On retourne. Comment si on mange à deux? On a deux assiettes chaudes, parce que manger dans une assiette chaude, c'est quand même sympa aussi. On prend le deuxième filet, on le met sur la deuxième assiette. Moi, je l'ai servi, je l'ai fait avec du merlu, là, mais ça marche avec tous les poissons blancs. Faut pas qu'il soit trop épais, le poisson. Et une salade d'épinards, c'est super bon.
Oui, parce que la durée de cuisson aussi, notamment à vapeur, c'est un piège, parce que tous les légumes ne cuisent pas la même durée.
Très honnêtement.
Il faut être synchro.
La vapeur, c'est extrêmement dur à maîtriser. Très très dur et j'aime pas le.
Mais là, pardon, votre système aussi avec les deux assiettes. Là, comment connaître la durée de cuisson?
En fait,
à part soulever, vérifier.
Exactement, mais comme c'est une cuisson qui est douce parce qu'on n'est pas en contact direct avec l'élément qui produit la chaleur. Avant qu'il y ait une surcuisson, il faut qu'on l'ait oublié longtemps.
D'accord. Autre possibilité, vous l'avez dit tout à l'heure en papillote, quelle que soit la feuille, on a en tête les feuilles de bananier, vous proposez la feuille de figuier, toutes donnent un goût et un goût particulier.
Un goût particulier, les Italiens font cuire les cèpes dans les feuilles de châtaignier, c'est génial aussi. Les feuilles de pêcher quand on est en vacances, ce qui est rigolo sur la feuille de pêcher, c'est que ça n'a pas le goût de la pêche, ça a le goût de l'amande amère. Ça a le goût du noyau de la pêche. Donc on va apporter encore quelque chose de différent. Ma maman, elle fait un vin de griotte avec des feuilles de griotte, pas avec les cerises.
C'est sa mère qui devrait ouvrir un restaurant, c'est elle qui a toutes les idées.
Mais c'est la vie en fait. On transporte ça, on transmet, parce que je pense que cuisiner c'est transmettre.
Et jouer justement la transmission des textures, des odeurs, des goûts, des parfums, vous le faites aussi avec une côte de veau que vous mijotez sur des coquilles de noix.
Ouais.
Donc vous posez les coquilles de noix au fond de la poêle,
la casserole,
et c'est ça qui protège de ne pas coller,
exactement,
de ne pas attraper.
Et puis c'est, vous savez cette image, quand on a tous cette image du mijoté. Le mijoter, c'était sur le coin du poêle avec un petit triangle dessous pour que ça prenne le temps. Bah, simplement qu'aujourd'hui, ma réflexion de cuisinier, c'est que j'ai toujours envie de cuisiner, donc de cuire. Cuisiner, cuire, la racine du mot est là. Mais simplement que j'ai pas envie de le faire comme avant, j'ai envie de le faire à ma façon. Donc on trouve 36 façons.
Et moi j'ai hâte d'essayer de mijoter au noyau d'olive. J'imagine que ça doit donner un goût de dingue.
C'est rigolo.
Qu'elle soit verte, qu'elle soit noire, qu'elle soit demi-soie.
J'ai essayé que sur les noirs, mais sur les noirs ça donne une texture incroyable. Et ce qui est extrêmement bon, et pourtant alors je l'ai pas mis
dans le livre
sur la cuisson, mais c'est quelque chose qui marche, c'est le noyau d'olive, il va rejeter un tout petit peu d'oléagineux, donc matière grasse, et de rouler l'élément qu'on a cuit juste dedans. Il n'y a même pas besoin de sauce. Un coup de poivre dessus, c'est super bon.
Et on peut rajouter un tout petit peu d'eau, non, pour délayer tout ça pour,
ah bah
pour
ça fait une émulsion, ça fera une
c'est
sauce.
Ça, c'est ça. Ça s'appelle
mais dis donc, mais dis donc.
Mais non, mais hein, non, mais j'écoute.
On va vous embaucher, Nagui.
Mais pas du tout. Gardez vos clients. Il faut qu'ils viennent. Zéro gras, 5 entre 7 chez Hachette Cuisine. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Ah, désolé déjà pour les traditions qui ont été bafouées, humiliées ce matin. Mais c'est vrai, on a parlé cuisine et zéro gras pendant 1h30. Et Leïla est restée quasiment totalement silencieuse. En même temps, la seule chose qu'elle fait, c'est la cuisine à l'agnole. Elle a bien raison, ma foi.
Oui, c'est vrai.
Désolé pour Jean-François Piège, qui a découvert ce matin le sens de l'amitié selon Nagui. Et oui, ce savant mélange de non-respect, de dénonciation et de calomnie parfois. Ah, en 1940, t'aurais été au top. Déjeuner pour Jean-François. Une dernière fois, pour fêter votre venue, Nagui vous a préparé une petite surprise. Il vous invite à midi à la cantine de Radio France.
Attention, le menu. Je suis pas disponible.
Le menu, non, vous avez peut-être changé d'avis. Hein. Le menu, quenelle de pneus, sauce vidange. Mais, cuit au riz.
Sans gras, c'est sans ça, gras. Presque. Merci Jean-François.
Merci.
Plein de bonnes choses à Clover Green ou encore le Grand Restaurant. Et puis, vous voulez reproduire les recettes chez vous. Elles sont visiblement simples et on a envie d'essayer tout ce temps que nous sommes.
Une petite partie de la recette suffit et appropriez-la vous parce que c'est ça la cuisine.
Zéro gras.
Ouais, mais t'as un peu de gras dedans parce que
c'est ça. Hachette Cuisine.